Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. 5 millions de pauvres en France, selon l'Observatoire des inégalités. La pauvreté recommence à augmenter après des décennies de recul. Les explications de Catherine Pétillon dans un instant. Emmanuel Macron aurait contacté plusieurs socialistes ou ex-socialistes pour composer son nouveau gouvernement, sans grand succès pour l'instant. Une information de France Info que nous détaillera Louise Baudet. Le Parti Socialiste, lui, cherche sa tête de liste pour les européennes de mai prochain. L'un des trois candidats déclarés, l'eurodéputé Éric Andrieux, est l'invité de ce journal. Un millier d'atteintes à la laïcité à l'école en 3 mois, selon le ministère de l'Éducation nationale. Un phénomène qui n'épargne pas le primaire, nous expliquera Sonia Bourhan. En 2016, il y avait en France 5 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit 600 000 de plus qu'en 2006. Ces chiffres figurent dans le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités. L'Observatoire qui fixe le seuil de pauvreté à 855 euros mensuels pour une personne seule, soit 50% du revenu médian qui partage la population en deux parties égales. Cette hausse de la pauvreté intervient après plusieurs décennies marquées par la réduction des inégalités, Catherine Pétillon.
Le rapport dresse un tableau de la pauvreté dans toutes ses dimensions, rappelant par exemple que plus de 7% de la population déclare ne pas pouvoir s'acheter une deuxième paire de chaussures ou que 4,8 millions de personnes ont fait appel à l'aide alimentaire. Une manière de rassembler des données publiées en général de manière éparse par les institutions. Noam Léandri, directeur de l'Observatoire des inégalités.
Pour compter, il faut être compté. C'est ce qu'on dit souvent en matière de statistiques. Il n'y a pas aujourd'hui un rapport qui réunit toutes ces informations sur la pauvreté. On en parle beaucoup, mais il n'y a jamais malheureusement un document unique qui permet de synthétiser tout ce qui existe sur la pauvreté et donc pouvoir en dresser un vrai panorama qui soit indépendant.
Et c'est bien ce que propose ce rapport. Ses auteurs insistent, de la connaissance des phénomènes dépendront les politiques mises en œuvre. Même si à toutes les personnes décrites dans ce travail, il faudrait ajouter les oubliés de la statistique publique. Anne Brunner, l'une des rédactrices du rapport.
En fait, il y a toute une partie de la population qui n'est pas recensée. Pensons aux personnes sans abri, par exemple, ou aux personnes qui vivent dans des situations collectives, par exemple les prisons, les maisons de retraite, où on sait que les personnes qui y vivent ne sont pas comptées dans les statistiques sur les revenus en France, mais en revanche ont des niveaux de vie très très faibles. Du coup, si on met bout à bout tous ces chiffres-là, il faudrait compter avec probablement 1 million de personnes supplémentaires qui ne sont pas comptées dans ces chiffres.
Le rapport souligne enfin l'efficacité du modèle français. Sans le système de protection sociale, ce ne serait pas 14 mais 22% des Français qui vivraient sous le seuil de pauvreté.
Et à noter que l'INSEE n'a pas les mêmes chiffres, avec 8,8 millions de personnes pauvres en France en 2017, soit 14% de la population, mais le seuil de pauvreté fixé par l'Institut est plus élevé, 1026 euros mensuels pour une personne seule. Selon France Info, Emmanuel Macron aurait bien du mal à recruter à gauche pour composer son nouveau gouvernement. Le remaniement n'interviendra pas avant vendredi soir, au plus tôt lorsque le président reviendra du sommet de la francophonie en Arménie. Emmanuel Macron aurait contacté plusieurs socialistes ou ex-socialistes et chacune des personnes sollicitées ou non a réagi à sa manière, Louise Baudet.
Dans la catégorie « j'ai été approché et j'ai refusé », Mathieu Klein, président socialiste du département de Meurthe-et-Moselle, ancien soutien de Manuel Valls, il a publiquement fait savoir qu'il avait décliné une proposition. Bruno Julliard, ex-bras droit de la maire de Paris Anne Hidalgo, parti avec fracas le mois dernier, dément lui avoir été contacté, mais sans éteindre la rumeur, confirmée par des sources bien informées. D'autres laissent planer le doute. Juliette Méadel, par exemple, ex-secrétaire d'État sous Hollande et ancienne valsiste, elle aussi, ralliée à Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle et radiée pour cela des fichiers du PS. Son entourage dément tout appel du président ou du premier ministre, mais n'écarte pas une prise de contact plus informée. Et puis il y a ceux qui optent pour le silence radio. Le sénateur de la Drôme Didier Guillaume, ex-socialiste et ex-valsiste lui aussi, se prépare pour le portefeuille de l'agriculture, affirme un haut responsable du PS. Quant à Guillaume Garot, député socialiste de Mayenne et ancien ministre, il ne souhaite pas s'exprimer sur les rumeurs qui le concernent. Pendant ce temps, Olivier Faure, patron du parti, dénonce une tentative un peu désespérée de débaucher et croise les doigts pour que cela n'arrive pas.
Et pendant ce temps-là, le Parti Socialiste prépare les élections européennes. Il y a déjà 3 candidats pour conduire la liste PS le 26 mai prochain. L'ancien député Julien Drey, la chef de file des eurodéputés PS Christine Revaud-Dallonne et notre invité Éric Andrieux, député européen depuis 2012. Éric Andrieux, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Avant d'évoquer votre candidature aux européennes, une question sur votre collègue eurodéputé Emmanuel Morel, leader de l'aile gauche du PS. Emmanuel Morel qui devrait annoncer demain dans les colonnes du journal Le Monde son départ du Parti Socialiste. Alors, quelle est votre réaction ?
Écoutez, ma réaction, c'est la tristesse d'abord, parce que je ne comprends pas très bien la démarche d'Emmanuel Morel, puisqu'il était co-responsable de la rédaction d'un texte d'orientation. Il a proposé un texte donc parallèle, ce qui sur le fond ne change rien donc à la proposition que fait la majorité finalement du parti, et c'était un prétexte pour sortir du parti. Je crois que c'est clair, il y a des questions de fond sur lesquelles nous sommes en désaccord. C'est une vision à la fois très jacobine et centralisée de l'organisation de la société, et une défiance par rapport à l'Union européenne que je ne partage pas. Je pense qu'il y a des enjeux majeurs, et nous allons peut-être en dire quelques mots.
Justement,
oui. Une confiance à l'Europe.
Justement, Éric Andrieux, comment vous définissez votre candidature face à celle de Julien Drey et de Christine Revaud-Allonne?
Oh, c'est pas face, hein. C'est plutôt avec. Aujourd'hui, la question, elle est posée, et je crois que les trois candidats, puis il y en aura d'autres, je suppose, la pose avait la même force. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, entre le libéralisme qui a échoué d'un côté et un populisme en pleine croissance, il y a une véritable place pour ce que j'appelle un socialisme renouvelé, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les notions d'objectifs de développement durable, d'ailleurs voté par l'ONU en 2015, qui travaille sur les questions d'équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de reposer les valeurs du socialisme dans une société en crise qui réponde vraiment par rapport à des questions de liberté, d'égalité, d'équité, de justice dans un monde qui s'est déstructuré et qui s'est hyper concentré. Nous avons des choses à faire valoir sans rien inventer, mais en remettant les valeurs que nous portons au cœur du débat sociétal.
Le populisme que vous voulez combattre, il est à droite, il est à gauche? Où est-ce que vous le situez, l'ennemi populiste?
Alors il y a les deux, il y a à droite avec des réflexes de repli sur soi, donc et des logiques identitaires, je dirais, donc patentes, mais également à gauche avec les questions de protectionnisme exacerbé. Je pense qu'on est sur un monde aujourd'hui multipolaire, globalisé, appelons-le comme on l'on veut, dans lequel je fais partie de ceux qui pensent que le continent européen doit avoir un rôle fondamental à jouer comme continent d'équilibre. Et on ne peut pas continuer à se voiler la face en disant qu'il y a des secteurs comme ceux de l'énergie, ceux du climat, ceux de l'environnement, ceux de la défense, pour la paix d'ailleurs, sur lesquels il faudra bien qu'on décide de transférer des responsabilités à l'échelle communautaire. Et dans un monde globalisé, je pense que la question de pouvoir régalien de l'Union est posée si on veut que le continent européen joue un véritable rôle d'équilibre. Et là-dessus, nous sommes en désaccord avec les populistes, donc les protectionnistes, qui soient d'ailleurs de droite ou de gauche.
Éric Andrieux, vous êtes un spécialiste des questions agricoles au Parlement européen, très engagé notamment dans la lutte contre les pesticides. Cet engagement est aussi au cœur de votre candidature européenne ?
Mais oui, si vous voulez, c'est du même ressort, c'est-à-dire que nous avons accompagné une société qui s'est hyper concentrée. La richesse donc s'est hyper concentrée, les industries se sont concentrées, les populations se sont concentrées, et aujourd'hui on voit bien que la recherche également s'est concentrée. Et en matière de santé humaine, en matière d'alimentation ou d'agriculture, nous avons laissé se concentrer tout ce monde-là de l'enjeu alimentaire. Et quand nous voyons que le monde du vivant aujourd'hui est concentré autour de trois grandes multinationales qui concentrent finalement de la graine à l'assiette, comme je le dis communément, pour moi, c'est une société qui n'est plus acceptable, et c'est ce qui justifie le combat ou la lutte que nous devons engager pour changer et réguler finalement la destinée du monde.
Vous avez à vous entendre un discours finalement très porté sur les questions écologiques. Alors est-ce que ça veut dire que vous imaginez une alliance pour ces élections européennes entre les socialistes et les écologistes?
Oui, alors je l'imagine, on verra ce qu'il en sera, mais aujourd'hui je pense que l'heure n'est plus à la petite politique. Et je reviens sur la question liminaire concernant Emmanuel Morel, je crois qu'il faut sortir des pratiques anciennes. Aujourd'hui l'enjeu est trop important. L'avenir du monde est devant nous, et cette échéance-là, nous sommes à 30 ans de 2050, où il va falloir prendre en considération entre 9 et 10 milliards d'habitants sur la planète, et oui, les données écologiques donc sont devant nous et sont un élément majeur, et qui doit nous permettre aujourd'hui risque de nous rassembler. Est-ce qu'on se rassemblera avant l'élection ou après l'élection? Mais dans tous les cas, les questions climatiques, environnementales et écologiques au sens large sont au cœur de nos préoccupations et nous devons, en responsabilité, les mesurer pour se rassembler afin de répondre à ces enjeux sociétaux.
Éric Andrieux, député européen, candidat à la tête de liste PS, merci d'avoir été l'invité de France Culture
merci
ce soir. Nouvelle étape judiciaire dans l'affaire Richard Ferrand. Trois juges d'instruction ont été désignés à Lille pour instruire le dossier. Le nouveau président de l'Assemblée nationale est mis en cause dans une affaire immobilière remontant à 2011, alors qu'il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Le parquet de Brest avait classé sans suite son enquête préliminaire, mais l'association Anticor avait relancé les accusations contre Richard Ferrand en portant plainte avec constitution de partie civile. C'est la première fois que l'éducation nationale quantifie le phénomène. Entre avril et juin, il y a eu 1 000 000 d'atteintes à la laïcité à l'école. 402 cas, très exactement, ont été traités selon la terminologie du ministère. Et d'après le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'islam occupe une place importante dans l'ensemble de ces signalements. Mais pas seulement, il peut y avoir d'autres religions, a expliqué le ministre sur RTL. Ces atteintes à la laïcité touchent aussi l'école primaire, Sonia Bourran.
44% des signalements ont été recensés dans les collèges, 20% dans les lycées et 36% dans les écoles primaires au niveau national. Ce sont des cas de contestation de certains enseignements, les sciences, la musique, de la mixité filles-garçons. Un phénomène en hausse à l'école, comme le confirme le référent laïcité de l'Académie de Toulouse.
Ce qui nous a effectivement étonnés, c'est que dans l'Académie de Toulouse, les signalements dans les écoles primaires sont à égalité avec le collège. Donc c'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait au départ. En l'occurrence, quand on est dans les écoles primaires, les situations d'atteinte à la laïcité concernent davantage les parents. Même si on a des situations, même en maternelle, où on peut avoir déjà des élèves qui sont très imprégnés par la religion et peuvent avoir des discours un peu qu'on peut considérer prosélytes. Mais la majorité des situations sont des situations qui mettent en jeu quand même les parents qui vont refuser, contester certains enseignements, refuser certaines activités scolaires.
Toutes les religions sont concernées, précise aussi ce référent académique qui rappelle systématiquement aux enseignants en difficulté le cadre fixé par l'éducation nationale, liberté de conscience dans le respect des valeurs de la République.
Sonia Bourran. Aux États-Unis, l'ouragan Michael a tué au moins 2 personnes en Floride et en Géorgie, mais il s'agit d'un bilan très provisoire car toutes les zones dévastées n'ont pas encore été explorées par les secours. Ce soir, l'ouragan a été rétrogradé en tempête tropicale et notre envoyé spécial en Floride, Grégory Phillips, a pu se rendre à Panama City, une station balnéaire sur le golfe du Mexique qui ressemble à un champ de ruines.
Au lever du jour, ils ont encore l'air éberlués, comme sonnés par la violence de ces vents à 250 km/h. Chris a passé la nuit dans sa voiture sur un parking.
Ma maison a été complètement détruite, donc j'attends pour savoir où est-ce que je vais dormir maintenant. C'était une bombe.
Peggy, elle, vivait avec son mari et leur fils de 12 ans dans un mobilhome. La caravane s'est envolée.
C'était vraiment effrayant. Les bruits étaient incroyables. Je n'arrêtais pas de prier. La prochaine fois, je partirai, c'est sûr.
Plus on s'approche du front de mer et plus les dégâts sont impressionnants. À gauche de la route, un train de marchandises complètement renversé. Partout, des poteaux électriques à terre, des voitures explosées et projetées à plusieurs mètres. Et puis, il y a cette tour d'habitation dont certains étages ont été détruits.
Et là, quand on arrive au 8e étage, on découvre des appartements totalement dévastés. En fait, les murs se sont envolés.
Au loin, on aperçoit un hélicoptère de la FIMA, les services d'urgence. Mais pour l'instant, la population de Panama City semble livrée à elle-même. Après le choc, vient l'heure du nettoyage. On sort des pelles, des balais. Downtown, au milieu de la rue principale, un homme seul ramasse des bouts de toit envolés et les écarte de la route afin que les voitures puissent passer.
Le reportage de Grégory Phillips en Floride. Intempéries meurtrières en Europe également. En Espagne, de violentes inondations sur l'île de Majorque aux Baléares ont causé la mort de 12 personnes, dont 6 touristes étrangers. Et puis en France, 2 personnes sont mortes à Sainte-Maxime dans le Var, noyées dans leur voiture qui circulait sur le littoral. Le temps demain restera estival selon Météo France. Le soleil s'imposera rapidement du sud-ouest au nord et au nord-est. Le ciel sera plus mitigé sur les régions méditerranéennes avec quelques pluies possibles autour du golfe du Lion. Les températures minimales de 10 à 18 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 20 à 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.